Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Dès les premières pages d'Un animal sauvage, on fait la connaissance de Sophie et Arpad, les deux héros du livre, décrits ainsi page 23. Amoureux, souriants, rieurs, bras dessus, bras dessous, un duo d'alliés. Voir Arpad et Sophie ce soir-là, c'était recevoir la foudre. Pourquoi ne sont-ils pas comme tout le monde, ces deux-là ?
Ils ne sont pas comme tout le monde, en tout cas dans l'imaginaire. On est là dans un livre où on observe les gens. C'est un livre où il y a du voyeurisme parce que des voisins s'observent les uns les autres. Et c'est la première rencontre, le moment dont on va vous parler ici, c'est la rencontre entre Greg et Karine, les voisins, invités à une soirée, un anniversaire, qui débarquent chez Arpad et Sophie qu'ils connaissent encore mal. Et ils sont immédiatement subjugués, happés par ce couple qui représente tout ce qu'ils ne sont pas. Et la projection commence dans leur esprit. Et c'est le début d'une fascination qui va tourner à l'obsession et qui va dégénérer, mais ça, je ne vous en dis pas trop.
Surtout qu'ils ne sont pas complètement ce dont ils ont l'air, ces deux-là, évidemment, sinon l'histoire serait beaucoup moins intéressante. On ne peut pas dire grand-chose de plus sans dévoiler l'intrigue, on peut peut-être simplement révéler qu'il y a un autre homme surgit du passé, ce couple d'amis, donc un tatouage en forme de panthère, et que tout ça, ça forme un cocktail assez explosif.
Oui. Ils vont se retrouver, donc on est à Genève en Suisse, dans un quartier huppé, paisible. Ces deux familles qui se ressemblent beaucoup, Arpad, Sophie et leurs deux enfants, sont les voisins de Greg et Karine et leurs deux enfants. Ils vivent leur vie en miroir, sauf que dans l'esprit et en tout cas dans les apparences, Arpad et Sophie ont mieux réussi socialement, professionnellement. Il est banquier, elle est avocate. Ils habitent une très belle maison en verre, une villa d'architecte avec piscine bordée par la forêt. Greg et Karine, elle est vendeuse, il est fonctionnaire, ils habitent une promotion immobilière bon marché pour la classe moyenne qui s'est construite à proximité. Et ils se sentent en décalage, ils se sentent un peu inférieurs et c'est là que tout commence.
Comment vous l'avez imaginé, ce couple ? Quand est-ce qu'il y a eu l'étincelle qui vous a fait penser à eux ?
C'est difficile de vous expliquer ou de vous répondre de façon très claire parce que ce n'est pas immédiat. Je ne me dis pas, voilà, il y a un couple comme ci, et puis il y a un autre couple comme ça.
Il n'y a même pas un des deux qui, Sophie,
non,
qui a l'air tellement, qui prend tellement de lumière, elle ne vous est pas apparue comme ça, vous l'avez construite aussi.
Je l'ai construite aussi au fur et à mesure, et je pense même qu'il n'y a pas immédiatement un couple, il y a d'abord un des deux personnages. Il faudrait que je revienne dans les toutes premières versions, hein. C'est marrant, je l'ai pas encore fait. Je le fais de temps en temps après l'apparition du livre, parce que j'ai les interviews, j'ai les lecteurs, j'ai ces questionnements qui me poussent à me demander mais comment j'ai voulu faire ça, pourquoi j'ai fait ça. Et donc je vais dans les anciennes versions que je garde évidemment du livre, et je relis et je me replonge, je me dis ah, c'est fou, le début c'était comme ça avant, etc. C'est toujours assez fascinant.
C'est un livre sur les apparences et les faux-semblants. Les gens parfaits ne sont pas forcément ceux dont ils ont l'air. Ce qui m'amène à me demander ce que vous cachez vous-même, parce que sur le papier, vous pourriez être l'un des personnages de ce livre, en tout cas l'écrivain à succès, à qui rien ne résiste. Donc il y a aussi des cadavres dans les tiroirs ou pas chez vous ?
Oui et non, il y a toujours des cadavres dans les tiroirs. Ce n'est pas souvent des choses graves, hein, mais on est toujours en train de présenter ou de se présenter différent de ce qu'on est vraiment. C'est le monde dans lequel on vit qui veut ça. Le monde des apparences, c'est le quotidien, c'est Instagram, c'est avoir ce besoin de la validation des autres pour soi et d'avoir de la difficulté à valider soi-même ce qui nous convient pour nous, alors qu'au fond, qui mieux que nous-mêmes peut savoir ce qui est bien pour nous ?
C'est un livre dans lequel vous avez disposé l'intrigue à Genève, après les États-Unis, qu'on a longtemps vu dans vos précédents romans, en tout cas dans beaucoup. Est-ce que la Suisse est aussi un territoire romanesque pour vous ?
Oui, très. La Suisse, c'est un territoire très romanesque pour plein de raisons. Le premier, c'est ce pays calme et tranquille dans les apparences.
Ah, là aussi, les questions d'apparence.
Là aussi, dans la Suisse, c'est très tranquille. Et puis, c'est un mélange de gens et de genres et de différentes villes et de cultures. Et ce brassage, il est très intéressant.
Et Marcus Goldman, votre héros que l'on a retrouvé dans plusieurs livres, dont bien sûr La vérité sur l'affaire Harry Kéber, s'en est terminé avec lui ?
Pour l'instant, Harry Kéber était censé être une trilogie. Je suis arrivé au bout de cette trilogie, donc la mission est remplie de ce côté-là. Est-ce qu'un jour, dans un an, ou dans 20 ans, ou dans 50 ans, est-ce que j'aurais envie de faire ressurgir Marcus ? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas.
Ce livre, c'est un nouveau page-turner, comme vous savez les faire. Je vais vous demander la recette d'un page-turner. Évidemment, vous ne pouvez pas nous la dire. Mais est-ce que l'écriture d'un tel livre, elle ressemble à la précision d'un braquage, comme il en est question aussi dans ce livre ? Est-ce que tous les ingrédients doivent être extrêmement bien dosés ?
Il n'y a pas d'ingrédients, mais rien ne doit être laissé au hasard. C'est ça. C'est que vous devez vraiment être en maîtrise de tout ce qui se passe et ne pas vous dire, bon, c'est assez approximatif, mais ça marchera sûrement. Ça, vous ne pouvez pas vous le permettre. De même que j'imagine, je n'ai pas fait de braquage, mais j'imagine que dans un braquage, vous devez vérifier tout pour être sûr que voilà, toutes les hypothèses, tous les scénarios sont très clairs.
Et donc, comment vous faites pour vérifier? Vous faites lire à des lecteurs? Vous voyez leur réaction?
Oui, surtout, ou ça, moi, vous je savez... vérifie tout le temps. Je lis, je relis, je reprends, je recontrôle. Je ne me dis pas, ça passe. Je veux vraiment être sûr. Et je fais lire ensuite, oui, évidemment.
Et pourtant, vous n'avez pas de plan au départ, c'est bien ça?
J'ai pas de plan. C'est ce qui demande d'être vraiment... de faire avec les éléments qui viennent à vous. Comme un braquage où vous regardez un peu ce que vous avez comme environnement, comme possibilité. Et là, je commence une histoire, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais plus j'avance dedans... Plus je me rends compte de ce que je veux faire et plus je reviens en arrière dans ce qui a déjà été fait pour le solidifier.
C'est pour ça qu'il y a plein de versions, vous l'évoquiez là, à l'instant?
Oui, absolument. Ouais.
Mais ça peut aller jusqu'à combien de versions?
J'ai arrêté de compter. Avant, je les numérotais. Maintenant, j'ai complètement arrêté de numéroter parce que ça ne sert à rien. Mais ça peut être beaucoup parce qu'il y a beaucoup de... C'est très empirique. Hein. Donc, vous refaites, vous recommencez, vous réécrivez. C'est pas bon, vous repartez, vous vous retrompez, vous revenez en arrière, vous changez de version. Enfin, voilà, mais c'est amusant. Moi, c'est ce que j'aime.
On parlait des détails, vous êtes aujourd'hui en plus votre propre éditeur, vous êtes allé récemment visiter l'imprimerie de ce livre par exemple, vous parliez du choix du papier, ça aussi c'est des détails qui comptent et qui vous plaisent?
Très important, la couverture, le titre, le cartonnage de la couverture physique, le choix du papier qui va définir l'épaisseur de votre livre, c'est très important. Et il faut faire attention à ces détails-là qui sont importants pour le lecteur aussi. Et parce que voilà, il achète un livre et il faut qu'il ait un bel objet, qu'il ait envie de garder, qu'il ait envie de transmettre éventuellement, mais qu'il soit un objet en soi.
Vous dites être convaincu du pouvoir de la littérature. Quand est-ce que ce pouvoir il vous a percuté? Vous avez un souvenir enfant de la rencontre peut-être avec un livre?
Oui, je crois que le souvenir le plus fort et un des premiers souvenirs, ou le souvenir le plus ancien d'un livre qui m'a marqué, c'est un livre pour enfants que j'avais lu qui s'appelait Le Dernier Loup d'Irlande et dont je me souviens de deux choses. C'est que j'ai terminé ce livre un soir où j'étais censé me coucher, je m'étais couché, j'avais en secret rallumé la lumière pour lire, ce qui dans mon souvenir était une première en me disant, mais, j'ai tellement envie de savoir que je vais allumer, je vais, alors moi qui suis plutôt discipliné et qui écoute ce qu'on me dit, et là en cachette j'allume, je lis. Et à la fin du livre, le loup meurt. Pardon, je divulgâche un peu, mais le loup meurt. J'étais très triste et j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est fou. Le sentiment qu'un livre peut évoquer en vous, il vous fait pleurer, c'est ce que ça déclenche. C'est ça, un livre. C'est fort, en fait. C'est très fort. Et ça, c'est la première fois où je suis frappé par, justement, ce que peut un livre.
Et ce pouvoir, vos propres personnages, maintenant, ils l'ont aussi avec vous? C'est-à-dire qu'ils vous habitent complètement pendant le temps de l'écriture?
Oui, et c'est hyper important pour moi... En étant très, très en retrait de mon livre quand même comme lecteur, hein, mais quand je lis, de savoir si j'accroche, si ces personnages, j'ai envie de les aimer, de les connaître, s'ils m'accompagnent ou pas. Et quand ce n'est pas le cas, si vous avez le sentiment qu'un personnage, il est là, mais qu'il est là uniquement par la perfusion de l'auteur qui le fait vivre, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Et peut-être c'est un personnage qu'il faut enlever.
Joël Dicker, vous signez Un animal sauvage aux éditions Rosie et Wolf, un livre parfait pour se perdre, pour tourner les pages de façon assez compulsive et pour poser un regard suspicieux sur tout ce qui nous entoure et si cette personne n'était pas celle qu'elle a l'air d'être. Merci beaucoup.
Merci à vous.